Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a un net penchant, vous le savez, pour les projets un peu dingues, pour les concepts affirmés, les idées folles portées à bout de bras par leurs initiateurs. C'en est par exemple le cas de Sorry to Bother You, étrange long métrage né de l'énergie et du cerveau quelque peu dérangé de Boots Riley, qui après un fort succès d'estime aux US sort enfin en France. C'est donc l'occasion pour nous d'en causer avec un trio de dangereux agitateurs. David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Stéphane Moïsakis, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
Cénociné épisode 172 et c'est parti.
Fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Sorry to Bother You nous raconte, si tant est qu'on puisse décemment résumer l'intrigue assez retorse du film, l'histoire de Cash, joué par Lucky Stanfield. Je sais pas du tout si je prononce bien son nom.
Si,
on l'avait aperçu dans Get Out, cet acteur Cash, donc jeune noir désargenté qui décide d'entamer une carrière de vendeur par téléphone, de télémarketeur, comme on dit, job dans lequel il excelle lorsqu'il réussit à prendre une voix de blanc, une white voice, car c'est le véritable secret de la réussite, semble-t-il, dans l'entreprise qu'il a rejoint, entreprise qui cache un bon nombre de secrets très noirs que Cash va découvrir au fur et à mesure de son ascension.
Man, I'm just out here surviving. And what I'm doing right now won't even matter.
Oh, baby, baby, it will always matter.
Oh. But you said you fixed that.
Get a room! I got a room, mother...
I just really need a job.
40 on 2.
This is telemarketing.
Stick to the script.
As always, we'll be getting that out to you right away.
Au scénario et à la réalisation, on trouve donc le rappeur Boots Riley, dont c'est le premier long métrage, et au casting, outre Stanfield, on croise Tessa Thompson, mais aussi Terry Crews, Danny Glover et Armie Hammer. Par ailleurs, les hilarants Patton Oswalt et David Cross participent vocalement à la chose, donc dans les fameuses voix de blanc que j'évoquais plus tôt. Votre avis sur Sorry to Bother You, les amis? Je vais donner la parole à Perrine en première, parce que c'est la plus enthousiaste, je pense, autour de cette table, sur ce film que nous avons tous vu.
Non, mais Perrine, je t'en prie. Merci.
Convainc-nous.
Convainc-nous, vas-y.
Fais-nous rire.
Go. Non, Je
sais pas ce qui s'est passé.
Je sais pas ce qui s'est passé. Non, au contraire, je sais très bien ce qui s'est passé. Je sais que j'allais voir le film complètement par hasard, pour le coup, pour l'anecdote. Personne s'intéresse à ça, mais je l'ai vu à Montréal cet été, donc tout le monde s'en fout. Mais voilà,
mais
non, c'était.
C'est cool.
Et j'y suis allée littéralement par hasard, et je m'attendais pas du tout à ça. Je trouvais que le film a quelque chose d'un croisement entre Michel Gondry et pourquoi j'arrive plus à trouver son nom, et je suis fatiguée aujourd'hui, hein, c'est
Spike
compliqué.
Lee.
Merci, Spike Lee, c'est le mot que je cherchais. Donc, voilà, un mélange entre Gondry et Spike Lee. Il y a une espèce de folie permanente dans ce film, une espèce de folie visuelle, de rythme aussi, c'est-à-dire que c'est un film qui est épuisant, mais un petit peu la
frénétique,
dernière fois. Ouais, frénétique. Enfin, la dernière fois, on parlait du film. Bien sûr, encore une fois, c'est vraiment casse-pied, hein, cette histoire. Le film sur les battles de rap, hein.
Bodied.
Bodied, voilà. On va être Bodied. Et voilà, donc cette idée, le rythme est légèrement plus calme que Bodied, mais quand même, on a cette idée. On sent que derrière, que Boots Riley, qui est un rappeur aussi, a quand même cette notion de flow permanente comme ça dans le film. Ce que chaque acteur va dégager aussi, chacun avec son rythme, chacun avec sa voix, va dégager. Et justement, comme il y a toute une question sur ce que c'est que la voix, ce que c'est que le rythme, puisqu'on a cette idée de, pour être un bon vendeur de télémarketing noir, et ben, faut parler comme un blanc. Il y a encore cette idée de rythme et d'intonation, ce que je trouve plutôt intéressant. Donc évidemment, le postulat de départ, on pense, c'est un film qui parle de racisme, évidemment, qui va totalement s'inclure dans la lignée d'un Get Out ou
de Black Landsman.
Ouais, ou de Black Landsman, complètement. Ouais. On reste dans cette lignée-là, et clairement, le sujet, il est là-dessus. Mais pour moi, c'est une toile de fond.
Oui.
C'est vraiment la toile de fond du film.
Il y a autre chose qui s'invite.
Il y a autre chose qui s'invite dans le film, clairement. Donc je ne veux pas spoiler la fin.
On va spoiler la fin. Alors attention, je fais une alerte spoiler pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient ne, alerte spoiler. Voilà,
non,
c'est
mais
fait.
Bon, après, voilà, au-delà des hommes, au-delà des hommes chevaux de la fin, au-delà de parler de ça, pour moi, c'est pas tellement le sujet. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, voilà, c'est assez facile, et c'est même enfoncer des portes ouvertes que d'aller critiquer les grosses entreprises et les gros chefs d'entreprise blancs qui sont méchants et qui sont attirés que par l'argent et qui manipulent les gens. C'est, ça dit ça dans le film, mais ça, c'est un pétage de porte ouverte. Ce que j'aime bien dans le film, c'est que justement Boots Riley nous ramène à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment, il nous dit, ouais d'accord, ok, les grosses entreprises et machin, c'est vraiment des tocards. Ouais, le racisme, c'est affreux, c'est endémique, c'est là, et c'est une catastrophe. Et on peut se marrer dans le film avec ça, mais c'est vraiment l'horreur. Par contre, il y a un truc qu'on peut peut-être pas admettre, c'est qu'en chacun de nous, il y a un putain de petit Rastignac. Pardon pour le putain. Eh bien, il y a un Rastignac à l'intérieur de nous qui, en fait, est d'accord avec ce système-là. Il y a un truc en nous, et ce qui représente Cash, en fait. Cash, la Keith Stanfield. Au fond, au début, c'est un petit gars sans ambition qui veut juste, qui est avec sa copine, voilà. Mais d'un seul coup, il va découvrir qu'il peut se faire de la thune. Il va découvrir qu'il peut gagner plus. Il va découvrir qu'il peut monter les échelons. Et à partir de ce moment-là, toute forme de, comment dire, de notions de respect, de principes, etc., ça s'en vont en même temps que les billets arrivent, en fait. Et j'aime bien cette idée-là qu'à un moment donné, on nous dise, oui, le système, il est dégueulasse, oui, c'est comme ça, et ça, il faut que ça change. En revanche, vous contribuez à ça tout autant que le système, vous êtes aussi dégueulasse que le système, parce que finalement, vous l'approuvez, vous jouez dans ce jeu-là. Vous avez votre fin justifie tout le temps vos moyens, et il nous met face à nos propres, au point qu'à la fin, le personnage de Cash va en finir par être totalement, physiquement transformé, et va le payer à vie avec son look de cheval. Mais l'idée, c'est qu'à bout d'un moment, on paye ce qu'on fait. Et j'aime bien cette idée-là chez Boots, je trouve qu'il va chez Boots parce que c'est un copain. Chez Boots, il est. Non, mais en tout cas, le fait qu'il aille au bout de son idée en permanence, au point d'aller trop loin, il y a des moments, c'est vraiment n'importe quoi, c'est même potentiellement moche en termes d'effets parfois, c'est un peu dégueulasse. Il y a quelque chose de très bricolé un petit peu aussi à la Gondry, d'ailleurs, il y a des références directes à Gondry. Mais justement, moi j'aime bien l'idée que je pense que son deuxième film, s'il en fait un deuxième, sera un petit peu plus tenu. Parce que là, ça se barre un peu trop dans tous les sens. Mais par contre, j'aime beaucoup cette idée que le réalisateur ne va pas du tout aller dans le sens de la facilité complètement, et va plutôt remettre en permanence en question le point de vue du spectateur, et à travers son personnage de Cash. Et c'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est un premier bon essai que ce Sorry to Bother You.
Stéphane.
Ce type de récit, ça existe depuis longtemps. Hein. Wall Street, c'était ça. Hein, de peu importe la couleur, peu importe l'endroit où ça se passe, il y avait déjà cette espèce de remise en question à la fois du système et des personnes qui y participent, y compris quand c'est des jeunes chevaliers blancs qui débarquent dans le truc et qui
veulent tout changer.
Voilà, et qui finalement se font bouffer.
Ils peuvent pas changer les choses, c'est ça que j'aime.
Non, mais parce qu'ils se retrouvent face à leurs propres contradictions, j'ai envie de dire. Le seul problème, c'est que c'est le seul perso pour moi qui a ce shift en fait qui existe, si tu veux, tous les autres persos, et c'est en ça que c'est un film dans l'air du temps, et qui c'est un des trucs qui me pose problème dans le film, c'est que tous les autres persos, ils ont raison de faire ce qu'ils font. Ils sont tous la voix de la conscience parfaite, si tu veux. C'est-à-dire que sa femme, par exemple, si tu veux, une artiste, machin, etc., etc., elle a le droit, en fait, d'être, comment dire, cette grande artiste, en fait, qui crève la dalle. Même quand elle est avec lui, elle le remet en question, du coup, mais elle profite quand même de sa richesse. Mais
elle est quand même montrée de manière assez cynique. Quand elle fait ses trucs avec son boulot, c'est de tenir un panneau pour indiquer la direction.
Je sais pas tant si elle est cynique. Encore une fois, ça, c'est un rapport aux États-Unis, c'est quand même encore particulier, le rapport au travail. C'est pas la même chose qu'ici. Là-bas, c'est tu bosses tout le temps,
oui,
donc y compris des petits boulots de merde.
Il dit pas qu'elle a raison, hein. Il dit à quel moment qu'elle a raison.
Il dit jamais qu'elle a tort. Et ça, je veux dire, le truc, c'est qu'indépendamment de ça.
C'est ça qui est bien.
En fait, le truc, c'est. Oui, mais le problème, c'est que c'est plus un truc de cette espèce de logique actuelle, en fait, qui, encore une fois, je veux dire, à partir du moment. Parce que le problème de ce film, pour moi, c'est que. Moi, je mets pas justement de côté ce que le film, il est censé raconter thématiquement, quoi. C'est-à-dire que. Parce que si je mets ça de côté, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le film, il fait 2 heures pour rien. C'est-à-dire que tu pourrais enlever facilement une demi-heure, couper ses excentricités, parce que c'est des excentricités, il va pas super loin avec cette histoire de cheval, machin. Hein. C'est juste une idée à la con, il s'est dit, ah, je la fais, tu vois, et puis il y va, quoi, tu vois. Ce que ça veut dire. c'est l'interprétation de chacun si vous voulez, quoi, mais fondamentalement, que ce soit, et là je parle du perso, de la perso de sa copine, la perso de ses potes en fait qui l'engueulent, les persos en fait de ses managers, y compris le grand méchant en fait, tu vois, qui est interprété par Armie Hammer, tu vois, c'est des mecs en fait, c'est des caricatures. C'est pas des persos, c'est des caricatures. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont inscrits dans ce qu'ils pensent que la vie est. Ils fonctionnent sous cet angle-là. Et basta, en fait, si tu veux, on les remet jamais en question. C'est eux qui remettent tout le temps en question le personnage principal, et qui le tentent, ou le comment dire, voilà. Et c'est des oppositions. Enfin, je trouve ça d'un manichéisme absolu, quoi. C'est-à-dire que, voilà. Et je trouve que cette idée de balancer, cette idée de mi-homme, mi-chevaux, comme un espèce, j'imagine, de je sais pas moi, de pousser le capitalisme au bout de son absurdité.
L'idée, c'est que les gens deviennent des chevaux de trait, enfin, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est que dans l'utilité.
Le problème, c'est qu'à la fin, quand tu racontes que ta thématique et que tu racontes pas ce que tu racontes avec tes persos, si tu veux, au fond, finalement, en fait, faut pas s'étonner si on l'attaque sur ça, en fait, le film, dans l'absolu, quoi. Enfin, les gens ne l'attaquent pas, en l'occurrence, parce qu'il est dans l'air du temps. Mais moi, c'est un gros problème pour moi, et c'est le même problème que j'ai avec Get Out. C'est-à-dire que le problème avec Get Out, et je trouve que Get Out, pour le coup, est beaucoup plus pertinent dans sa thématique. C'est-à-dire que Get Out, il parle d'un phénomène racial qui existe, en fait, qui est cette espèce de volonté absolue de pas être raciste, en fait. Et donc, du coup, de l'être quand même, quoi. C'est-à-dire que ça, c'était pertinent, et ça, c'était vraiment, voilà. Je trouve que tout ce qui est de l'ordre du thriller dedans, pour moi, ne fonctionne pas, en fait, dans Get Out. Mais pour si on doit faire une comparaison. Mais le truc, c'est que là, eh ben, c'est un peu la même logique, mais sauf que c'est poussé, en fait, dans la comédie. Moi, le film ne me fait jamais marrer. Enfin, pour le coup, la white voice, ben, il l'utilise tout le temps, donc au bout d'un moment, voilà. Et surtout, cette espèce d'idée qu'en fait, on est dans un monde alternatif, juste parce que les mecs, ils peuvent utiliser une white voice et que t'as des hommes chevaux et qu'en fait, t'as rien d'autre qu'alternatif, puisque ça reste notre monde, en fait. Ben, moi, ça me vend pas, en fait, ça me vend pas, c'est ce que ça raconte, en fait. C'est-à-dire que c'est même pas un film univers. Alors, je sais que c'est pas la volonté, je sais que c'est pas, par exemple, mais quand tu regardes un film comme Brazil, je sais que c'est pas les mêmes films, hein, en fait, mais qui, dans thématiquement, pourrait attaquer les mêmes choses, si tu veux, et questionner la même chose avec le même personnage principal, etc., etc. Je veux dire, et c'est l'univers de Gilliam, il a créé quelque chose autour, en fait, si tu veux, qui de l'ordre du vrai film monde. Ce qui fait que le miroir avec notre monde est beaucoup plus évident thématiquement, en fait, et c'est ce qui fait ressortir la richesse du truc. Là, le problème du film, c'est que ça se passe chez nous. Enfin, ça se passe.
C'est pas un film monde.
Non, mais c'est pas un film monde, mais c'en est quand même un, parce qu'en fait, finalement, fondamentalement.
Non, il va pousser à un petit peu plus loin quelque chose, mais à aucun moment il te dit qu'il recrée un monde.
En fait, il va pas pousser plus loin. En fait, il va pas pousser plus loin, parce qu'en fait, fondamentalement, tout ce qui se passe dans ce récit-là ne peut pas exister. C'est-à-dire que l'histoire des hommes chevaux, ça peut pas exister.
Tu sais pas.
Je sais mieux que toi, en l'occurrence, sur ce point-là, parce qu'en fait, en l'occurrence, il faudrait me le démontrer. Et le truc, c'est et pareil, le coup de la voix blanche, tu vois, c'est pareil, c'est un truc où il faut qu'ils prennent. Moi, j'aurais trouvé ça plus cohérent si l'acteur, il avait une vraie performance d'acteur là-dessus, et qu'il jouait ce jeu-là, tu vois, comme Eddie Murphy peut le faire, tu vois.
Mais non, ça veut dire que justement, ce n'est pas possible de le faire.
Mais justement, donc tout ça, comme c'est pas possible à la fin. Bah, j'ai envie de dire, mais de quoi tu me parles, puisque en fait t'es dans notre monde qui est pas notre monde, mais voilà, et le souci que j'ai là-dedans, c'est que tout ça, c'est finalement pas incarné, c'est tous les délires visuels, on va dire, et encore délires visuels, faut aller loin quand même pour dire que c'est des délires visuels, tu vois, mais tous les espèces de rapports où d'un seul coup le mec se retrouve à parler avec quelqu'un au téléphone et d'un seul coup il se retrouve dans sa pièce, bah c'est des palliatifs en fait pour essayer de dire, ah, regardez, je suis un cinéaste, je sais faire du cinéma, raconter quelque chose, tu vois.
Ça sauf fonctionne que... quand même plutôt pas mal, ce genre de truc qui en plus
outre le fait que ça a déjà été fait, déjà vu.
Non, mais
si
d'accord,
tu
peux pas reprocher à un film de faire des choses qui ont déjà été faites.
Outre le fait que ça a déjà été fait, déjà vu, encore une fois, pour moi, c'est un palliatif, en fait, si tu veux, à l'idée qu'il tente de raconter quelque chose qu'il ne raconte pas vraiment à la fin. Quoi. C'était juste une manière de dire, regardez, je suis un narrateur, je sais faire les choses, tu vois, je sais raconter le truc, mais fondamentalement, le film, il raconte quoi? Ça se termine sur quoi, tu vois? Moi, après, voilà, tout ce que t'as dit, pour le coup, je dis pas que c'est faux, hein, tu vois? Je trouve que t'es juste plus intelligente que le film, tu vois? Mais voilà, c'est ça c'est le truc, vrai. Tu vois? Mais tu fais ressortir ce truc-là, où t'as envie tous. De dire... moi, ce film, je le trouve pas agressif vis-à-vis de son sujet, je le trouve pas agressif vis-à-vis de sa thématique. Éventuellement, il tape un peu sur les doigts de son personnage principal, pour lui dire, hey, mec, qu'est-ce que tu fais? T'es censé être cool, tu vois? Mais t'es pas cool, en fait, tu vois, quand tu fais ça, tu vois? Donc voilà, et puis, hop, what? Homme chevaux, tu vois, formidable, tu vois, je veux dire, et regardez, tu vois, le monde, en fait, on devient des chevaux de trait, tu vois, enfin, voilà, et là, tu veux dire, ben ouais, super, tu vois, et tu vois, et c'est ça le truc, en fait, le souci pour moi, en fait, là-dedans. Ouais, enfin le risque, on l'a déjà dépassé depuis longtemps. Si on est dans la, encore une fois, dans les logiques thématiques, hein.
David,
c'est pour ça que moi, je rejoins ce que disait Perrine au début, c'est-à-dire que je pense que le regard et le point de vue du film est beaucoup plus sur l'individu. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de recréer un monde, mais plutôt de recréer ce qui se passe dans la tête du personnage principal, du personnage de Lucky Stanfield. Et du coup, ce que t'appelles des excentricités visuelles, pour moi, sont des projections de ce qu'il a dans sa tête. Jusque potentiellement, au final, etc. On pourrait presque, analyser l'ensemble du film comme un délire qui existe ou qui n'existe pas, mais qui est une projection du personnage plutôt qu'une réalité dans laquelle il est.
Enfin, en l'occurrence, les autres persos les voient. Hein.
Oui, mais les autres persos...
C'est peut-être une exagération de sa part, c'est peut-être qu'ils sont juste un problème et il les met dans sa tête
comme,
un homme
chevaux. Comme tu dis, les autres persos, on ne voit jamais le point de vue des autres persos, c'est-à-dire que c'est tous les autres persos existent dans sa version. C'est-à-dire que même sa copine, la manière dont Tessa Thompson, que je trouve excellente dans ce film, est une projection, presque un fantasme du personnage principal, plus qu'une personne en soi, quoi. Et ses excentricités, la manière dont elle se comporte, la manière dont elle vit son art, comme ce dont tu parlais tout à l'heure.
Et ses boucles d'oreilles.
Et ses boucles d'oreilles. Enfin,
c'est pareil, un délire narratif pour raconter quelque chose au moment où il le raconte.
Oui,
tout,
mais,
hein.
Mais qui fait que pour moi, on est dans une forme de cinéma finalement assez intimiste, en dépit de certains effets de gimmicks visuels, etc., qui est un personnage projeté dans cet univers d'avoir l'impression d'être un raté, de vivre dans le garage de son oncle, avec la porte qui s'ouvre sur la rue quand il commence à essayer de baiser sa copine. Ce truc... Enfin, moi, c'est ça qui m'a touché et qui m'a attrapé dans le film, c'est d'avoir l'impression de suivre vraiment le point de vue de ce personnage et jusque dans ses dérives, et etc. Et ce que tu disais sur... effectivement, moi, c'est un truc qui me questionne un peu, c'est le choix de faire interpréter la voix blanche par un autre acteur. Et là, on peut faire le parallèle avec Black Landsman, où justement, dans Black Landsman... c'est l'acteur principal qui aussi, quand il se fait passer pour un blanc auprès du Ku Klux Klan, change un peu sa voix et sa manière de parler. Et en fait, le discours que ça porte dans le film de Spike Lee, c'est que évidemment, tu peux pas reconnaître la couleur de quelqu'un au téléphone pour de vrai. Donc c'est, enfin, tu peux changer ou tu peux quelques expressions, quelques intonations, en fait, te font basculer d'un côté ou de l'autre, mais c'est que de l'interprétation et au final, ça veut rien dire. Et c'est pour ça que pour moi, c'est plus comment dire, plus que la volonté d'avoir identifié des troubles dans la société ou de détecter ce qui dans le monde d'aujourd'hui est problématique, etc. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus miniature, en fait, qui est vraiment le point de vue de ce personnage principal et qui repose, moi je trouve, beaucoup sur la qualité de l'acteur, enfin, en fait, pas que lui, c'est-à-dire que je trouve que lui incarne, Lucky Stanfield incarne vraiment un truc que pour le coup je trouve original, enfin, tu dis qu'il y a pas mal de choses dans le film qu'on a déjà vu. J'ai pas l'impression que cet acteur, cette manière de jouer, je l'ai tant vu ça au cinéma. Et puis autour de lui, il y a une myriade de personnages qui effectivement, ça aurait pu me gêner, ce sont des personnages qui n'existent pas vraiment en tant que tels, sont des fonctions, mais qui pour moi sont à chaque fois des projections de ça. Donc en fait, on est dans un truc. Alors peut-être que c'est l'air du temps, peut-être que c'est une sorte de truc un peu qui est plus dans une esthétique presque musicale et dans un truc très je sais pas, vidéo internet, ça m'a attrapé justement pour ça, pour ce point de vue très singulier et cette incarnation de personnage qui a un regard complètement singulier sur le monde.
En regard, moi je trouve des sujets, le souci c'est que c'est de la vacuité, en fait, c'est à dire qu'on cite Spike Lee. Alors, moi j'ai pas vu Black Landsman, mais par exemple, si tu veux, je veux dire Spike Lee en a fait des films ratés, hein, sur ce même genre de logique, hein, c'est à dire que encore une fois, tu regardes Girl Six ou tu regardes Bamboozled ou des trucs comme ça, pour moi, c'est des ratages similaires. Hein. C'est des tentatives de comédie, en fait, où les mecs passent complètement à côté de la façon dont ce qu'il veut vraiment raconter, parce qu'en fait, il privilégie cette espèce de logique de style et tout. Mais à une époque, quand c'était Do the Right Thing ou des trucs comme ça, en fait, il prenait à bras le corps le sujet. Ça venait de quelque chose de totalement vécu, ce que j'ai pas l'impression qu'il vient de Boots Riley à la base, tu vois, pour le coup, quoi. Et en fait, il en faisait quelque chose où ce point de vue-là, c'était celui aussi du cinéaste, pas uniquement celui du personnage principal. Et moi, mon souci, c'est que c'est un souci d'incarnation. C'est-à-dire que si je crois pas dans l'univers dans lequel ça se passe, si le personnage, en fait, en soi, il me paraît pas plus, enfin, ni sympathique, ni antipathique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un verre d'eau pour moi, le mec, tu vois, il passe comme ça, quoi, et que tous les autres persos, en fait, sont juste là pour lui rappeler que hey, t'es quand même pas super cool, et t'as envie de dire, ben, toi non plus, t'es pas super cool, mais apparemment, en fait, toi, on te le dit pas, tu vois, ben, ça se retrouve dans une espèce de truc où j'ai envie de dire, ben, tu. Enfin, parce que après les thématiques générales du film, elles sont quand même pas si. Enfin, certes, il les traite de manière légère, mais c'est tu peux en sortir quelque chose, tu vois. Et, ouais, et là, en l'occurrence, si tu veux, il le fait pas vraiment. Je lui reproche de pas avoir pris le truc à bras le corps, en fait, parce que moi, justement, quand vous parlez de trucs où le mec il va à l'extrême dans son délire, tu vois, moi, je trouve qu'il va pas à l'extrême dans son délire.
Pour moi, il le prend à bras le corps, son sujet. Encore une fois, il traite pas de sujets. Voilà, encore une fois, le racisme, tout ça, c'est des sujets qu'il a, comment dire, déjà intégrés à son film, en fait. C'est-à-dire que c'est pas réellement le sujet du film, c'est pas encore une fois aussi de dire que les grosses corporations c'est des méchants et qui manipulent les gens, c'est pas le sujet du film, ça l'intéresse pas. Il prend ça comme décor de ce que vous savez déjà. Oui, vous savez déjà que ça existe. Et puis en effet, je suis d'accord avec David sur le coup pour l'idée que les autres personnages paraissent un peu plus unidimensionnels que lui parce que justement, ils ne sont que de son point de vue à lui. Et pour moi, le sujet, c'est lui et le sujet c'est l'homme dans la société, c'est-à-dire l'homme pas l'homme homme enfin l'humain dans la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ta position, tes choix, et peu importe en fonction de qui, de quoi et de la façon dont tu vois les choses, mais ta position, tes choix définissent ce qui va t'arriver. Et au bout d'un moment, si tu joues avec le système, tu vas prendre autant que le système. Et j'aime bien, je trouve qu'au contraire, même si c'est un peu comédie et que c'est un petit peu voilà, fait de briques et de broc sur pas mal de trucs, et je suis d'accord qu'il y a beaucoup de reproches à faire au film en réalité. Mais je trouve que, dans le fond, moi j'aime beaucoup ce jeu-là, il m'amuse énormément parce qu'il est là en train de me dire bah, ok, je vais pas vous faire un truc où je vais raconter tout le racisme, tout ça. Non, je vous dis, au bout d'un moment, ce système-là, vous êtes dedans, à vous d'agir. Et j'aime bien ça.
À la fin, la question, c'est est-ce que vous êtes amusé ou pas, quoi.
Bah,
moi, je ne me suis pas amusé du tout.
Moi,
je ne suis pas amusé du tout à ce film, quoi. C'est ça.
Fait un sondage à peu près à 30%, 70% de satisfaction, ouais. 60%, ouais. Voilà.
Parce qu'il faut rentrer dans la thématique du film.
C'est moyen, bien, mais pas top. Ok, très bien. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix. Bon, ce sera difficile de rester dans l'univers de Boots Riley vu que c'est son premier film, mais vous avez trouvé vous-même des petits parallèles avec d'autres choses, Perrine.
Pour le délire un peu visuel et l'idée d'être avec un personnage, et puis, quand je dis délire visuel, c'est-à-dire d'un seul coup que la réalité soit légèrement augmentée parce qu'on est du point de vue de quelqu'un, ça m'avait pensé un petit peu au film Dans la tête de Charles Swann III de Roman Coppola, avec Charlie Sheen dans le rôle principal. C'est un film qui date de 2012, je crois, dans ces eaux-là. Et c'est Charlie Sheen qui se fait larguer, c'est un long truc de rédemption. Enfin, c'est une star de cinéma, je crois, dans le film. Enfin, je sais plus très bien. Drogué, tout ce que... Charlie Sheen, quoi.
Charlie Sheen, ouais,
et,
c'est
Charlie Sheen,
c'est Charlie Sheen en fait,
qui vit dans un monde un petit peu...
Dans le monde de Charlie Sheen.
Dans le monde de Charlie Sheen. Et donc, voilà, il se fait larguer, et en fait, il n'arrive pas à se remettre, et le monde va être un petit peu... Voilà, et c'est un film... Un gros délire visuel, c'est un petit peu n'importe quoi, mais surtout c'est un film qui a énormément de cœur, et j'aime beaucoup justement l'idée qu'à un moment donné, on est encore une fois que de ce point de vue-là, parce que c'est le chemin d'un personnage, et pour le coup, Charles Swann III, moi ça m'avait fait rire, mais ça m'a surtout fait pleurer. Oh. Donc je vous recommande ce film-là qui est passé littéralement inaperçu.
C'est pas faux. David.
Moi j'ai deux recours, une première qui est restée un peu dans notre angle mort de nos cinéaires. Il est sorti en octobre, je pense que c'est des raisons de planning ou de on n'avait pas vu le film,
ça, possible que ce
mais
soit ça.
C'est Blindspotting de Carlos López Estrada, qui est c'est une sorte de bromance avec en toile de fond la gentrification d'Oakland, et c'est un film que je trouve assez intéressant, assez bien foutu, que j'ai vu un peu tard justement par rapport à la sortie. Enfin, en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas pas pu en parler dans nos ciné et qui bah, qui que je trouve intéressant, enfin le parallèle avec Sorry to Bother You, ça serait de que ça porte une sorte de fond de discours politique sans que ça soit du tout le sujet principal, et ça raconte une vraie histoire qui est là pour le coup plus sur la relation entre les deux personnages principaux. Et puis un autre film, alors là c'est plus l'aspect grève et manif qu'il y a dans Sorry to Bother You, et c'est parce que je me posais la question de où est-ce que j'avais déjà vu des films de grève américains, parce que c'est...
Oui, parce qu'il y a cette partie-là aussi, on en a assez peu parlé.
On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des scènes de manif, de protestation et tout. Et je me suis aperçu que j'en trouvais pas tant que ça, parce que bah, évidemment, par rapport à la France par exemple, c'est pas trop
c'est
le
moins
cliché
dans la
américain.
Culture américaine, effectivement.
Et je recommande donc en grève exploitation,
c'est de la strike exploitation.
Non, il y a un film de, c'est le film américain de Ken Loach qu'il a tourné en 2000, s'appelle Bread and Roses, qui est tourné à Los Angeles, son seul film je crois tourné aux États-Unis, et qui est assez intéressant. Alors moi je suis pas fan de tous les films de Ken Loach, et je trouve que son cinéma c'est vraiment essoufflé avec le temps. Mm-hmm. Ces derniers films je les trouve beaucoup moins intéressants que qu'à une époque, mais c'est un film qui vaut le coup d'être vu justement pour ce transfert aux États-Unis et sur la manière dont il filmait au début des années 2000, et voir aussi tout ce qui a changé depuis, quoi. Bread and Roses, et dedans on voit un jeune Adrien Brody,
tout à fait,
qui est assez marrant à voir.
Stéphane. Tout le monde attend un peu avec fébrilité.
C'est-à-dire que le truc, c'est que quand on Sorry to Bother You, c'est quand même une comédie, tu vois.
Ouais.
Ok, on sait très bien que la comédie, les blagues les plus courtes sont les meilleures, tu vois.
Tout à fait.
Donc moi, je recommande Anaconda. Voilà.
Ok.
Et non, mais je voulais dire aussi que j'aurais peut-être un peu plus acheté Sorry to Bother You si c'était des hommes Anaconda plutôt que des hommes chevaux, tu vois. Voilà. Et là, en fait, je pense que là, toi, je me suis dit, ah là, ça, c'est univers, je le comprends,
ça
je le connais, quoi.
Voilà.
Ce sera peut-être Sorry to Bother You 2, le défi avec des hommes Anaconda, du coup, à la place des hommes chevaux. Ce sera, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin, la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.